Je vais alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez donc dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner notre vie, votre vie, pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce matin, je me suis levé très tôt. Ça m'arrive souvent de me lever tôt et... Parce que hier soir, je suis rentré tard, il n'y a peut-être pas un lien entre les deux, mais je suis rentré tard. Parce que pendant 2 jours, j'ai animé un week-end chrétien ici, près de Lille, sur Thumery, avec des frères et sœurs dans un groupe que l'on a fondé, et on anime des week-ends de formation, et des week-ends d'écoute du Seigneur. Et un des textes, justement, qu'on avait eu à cœur de partager, c'est ce texte de Jean. Alors ça tombe bien, parce que c'est le texte du jour. Alors, je me suis levé ce matin et j'ai constaté, parce que souvent le dimanche matin, je vérifie quand même si c'est moi qui suis prédication ou pas. C'est toujours utile de vérifier. Et j'ai vérifié ce matin que c'était moi et je me suis dit, bon, regardons le texte du jour comme à mon habitude et je vois alors que c'est Jean. Et c'est notamment un des textes sur lesquels j'avais prêché pendant ce week-end. Mais comme ça durait 2 jours, on avait vraiment eu le temps, si vous voulez, de développer. Et je me suis dit, mais alors, par rapport à ce que j'ai reçu ce week-end, ce qu'on a partagé, quel est l'essentiel que je pourrais partager en quelques temps, un peu plus court, pour notre Église? Le thème du week-end, c'était « S'approcher de Dieu, c'est mon bien ».« M'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Pourquoi? Parce que Dieu a pour ma vie une promesse de fécondité. Une promesse de fécondité. Quelle fécondité, quelle promesse que nous portions du fruit. Une des sœurs qui était dans notre groupe pendant ce week-end nous a partagé, c'est une maman, elle a eu 3 enfants, femme de pasteur, très très occupée à la maison pour ses enfants. Et un jour elle s'est dit, tout honnêtement, tout simplement, mais qu'est-ce que j'ai vraiment fait de ma vie? Est-ce que ma vie a vraiment été utile? Parce que moi, je me suis occupé de mes enfants. J'ai eu la charge de la maison. Mon mari était très occupé avec l'Église. J'y étais aussi impliqué, mais pas de la même manière que lui. Est-ce que ma vie a vraiment été utile? Est-ce que ma vie a vraiment porté du fruit? Et elle vivait ça un peu comme une question qui l'a hantée un peu. Est-ce que vraiment j'ai été utile et j'ai porté du fruit? Elle s'est posée cette question-là un soir. Et 2 jours plus tard, elle reçoit une lettre. Et en fin de compte, cette lettre, elle la reçoit d'une de ses filles qui habite Bruxelles. Et cette fille lui dit, « Maman, je ne sais pas pourquoi, mais il y a 2 jours, je me suis réveillé en pleine nuit, il fallait que je t'écrive une lettre. » C'était juste quelques heures après qu'elle se soit posée cette question. Dans cette lettre, elle lui disait pour la première fois, « Maman, merci pour la maman que tu as été. Merci. » Parce que grâce à ton exemple, à ce que tu as fait pour nous, ma vie est réussie. Porter du fruit. Mais le fruit que nous portons n'est pas pour nous, il est pour les autres. Et un fruit, on doit le détacher, il nous échappe. Et pour comprendre cela, et cette sœur en Christ que j'aime beaucoup, qui a beaucoup aussi d'humour, et qui avait ce regard sur sa vie, a compris que finalement, je m'étais un peu angoissé, je m'étais un peu rentrer un peu comme dans une dépression momentanée par rapport à cette question-là, parce que je n'avais plus revu ma vie telle que Dieu la voit. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu regardes ta vie telle que Dieu la voit? Je vais vous prendre une image qui m'a beaucoup parlé. Encore une fois, c'est une image que je tire de ma profession en tant qu'enseignant à mes élèves de seconde. Je dois leur apprendre une chose un peu étonnante, mais qui paraît évidente, c'est que même jour, même heure, aujourd'hui, même jour, même heure, il n'y a pas la même température au pôle Nord et à l'équateur. Pourquoi? C'est le même soleil qui les éclaire. C'est la même puissance solaire qui arrive. Parce que justement, la Terre, son axe de rotation, n'est pas orienté vers le soleil. C'est comme si Dieu me disait, si tu veux recevoir la pleine lumière sur ta vie, si tu veux recevoir toute la puissance, tout le fruit que je veux que ta vie porte, et si tu veux le comprendre et le recevoir dans la foi, pour être dans la paix, n'oriente pas ta vie vers un autre axe de rotation que moi. Et alors tu seras toujours à l'équateur de ta vie pour recevoir le maximum de mon amour et le comprendre. Autour de quoi ta vie tourne-t-elle, mon frère, ma sœur? Autour de quel axe de rotation tourne ma vie? Est-ce que c'est autour de moi-même? Est-ce que c'est autour de ce qui m'angoisse? Est-ce que c'est autour des préoccupations matérielles de ce monde? Ou est-ce que c'est autour du projet que Dieu a pour ma vie? Car je connais les projets que j'ai formulés pour toi, dit le Seigneur. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Mon frère, ma sœur, si Dieu est Père, il a un projet pour ma vie. Un Père, c'est celui qui a un projet pour cet enfant. Et le projet du Père, c'est un projet d'amour pour l'éternité. Et durant le temps de cette vie, il a le projet que nous portions du fruit pour nous et pour les autres. Il veut que notre vie soit réussie. C'est un Père. C'est pas un Dieu lointain. J'aime entendre dans la Bible cette parole qui dit dans les psaumes, « Alors que tu n'étais qu'un tout petit embryon dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. » Est-ce que nous pouvons entendre ça? Alors que tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. J'ai un Père terrestre, mais j'ai un Père céleste qui a désiré que je vive, qui a voulu que je sois et qui a un projet pour ma vie. Et c'est un projet de vie, d'amour, pour que je porte du fruit pour moi et pour les autres. C'est un projet de bénédiction. Toute la Bible nous dit cela. Et c'est pour tout homme, toute femme, qu'il soit chrétien ou pas, tout homme, toute femme, et fils et fille du Père. Mais comment rentrer dans ce projet? Comment rentrer dans cette promesse? C'est orienter notre vie vers le regard du Père, sous le regard du Père. C'est une promesse que Dieu nous fait. Et je crois, je suis convaincu que cette promesse, Dieu est fidèle pour la tenir. C'était mon premier point. Considère ta vie sous le regard du Père. Dès ton plus jeune âge, considère ta vie sous le regard du Père. Et moi qui suis Père, que je considère la vie de mon fils aussi sous le regard du Père. Un Père terrestre, c'est celui qui mène au Père céleste. Mais, pourquoi y a-t-il un mais? Parce que notre vie n'est pas faite que de moments où on a l'impression de porter du fruit. Et notre vie humaine passe bien souvent par des temps d'affliction. Par des temps où tout semble contraire. Par des temps où tout semble exactement à l'inverse de ce qu'est une bénédiction et de ce que c'est que de porter du fruit pour nous et pour les autres. Eh bien, mon frère, ma sœur, même cela, c'est dans la main de Dieu. Et même cela portera du fruit. Qu'est-ce qui me le fait dire ? Paul, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son projet. Tout ce qui nous arrivera dans notre vie, tout peut concourir et tout concourra au projet de Dieu pour notre vie. Parce que Dieu nous aime et que lui seul peut changer le mal en bien. C'est libérateur. Et c'est vrai. Et j'aimerais, pour illustrer cela, prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est Jésus. De quel épisode de sa vie est sorti le plus grand bien pour toute l'humanité ? De sa mort. Pas de ses 3 ans de ministère glorieux où il a ressuscité des morts. Pas de ses 3 ans où il a enseigné, c'est important. Mais tout ne s'est pas joué là. Tout s'est joué à Gethsémané. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et tout s'est joué à la croix. C'est par sa mort que nous avons la vie. C'est par la plus terrible des afflictions qu'il a porté le fruit le plus essentiel pour toute l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas porté de fruit avant. C'est évident, quand on médite les enseignements de Jésus, ça porte du fruit. Mais c'est là que tout s'est joué. De ce qui paraissait une malédiction terrible, puisque la plupart des Juifs de l'époque n'ont pas cru que Jésus était le Messie, parce que justement, être pendu au bois, c'était une malédiction. De ce qui est apparemment une malédiction, Dieu, en fin de compte, faisait une bénédiction pour l'ensemble de l'humanité. Mais Jésus, c'est Jésus. Même si c'est notre modèle, en quoi ça nous rejoint ? Eh bien, il y a dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, une figure de Jésus. Vous connaissez quel est l'homme dont la vie est vraiment une figure, une préfiguration de Jésus ?
Joseph.
Mon frère, ma sœur, si tu es dans la dépression, si tu t'inquiètes pour ta vie, si tu ne sais pas si ta vie porte du fruit, et si tu es dans l'affliction la plus terrible, relis Joseph. On ne va pas le relire en entier, mais je vais vous le résumer. Donc Joseph, c'est dans la Genèse, c'est un des textes les plus anciens de la Bible. Et tout débute au chapitre 37 de la Genèse. Joseph, c'est le chouchou. C'est le fils préféré. Il a tout pour être heureux. Il est aimé par son père, j'ai envie de dire plus que les autres, plus visiblement que les autres. Parce que son père a la conviction que c'est par lui que passera la promesse que Dieu lui a faite. Donc il le chouchoute. Et qu'est-ce qui se passe ? Les autres frères, est-ce qu'ils sont contents ? Très contents, ils sont très jaloux. Ça peut arriver dans une famille, cette jalousie. Et qu'est-ce qu'ils vont alors décider d'une manière terrible ? Ils vont le vendre comme esclave aux Égyptiens. Si vous lisez le texte Genèse 37, pas une seule fois on parle de Dieu dans ce chapitre. Pas une seule fois le nom de Dieu est cité, pas une seule allusion est faite à Dieu. Genèse 37, et alors on passe évidemment à la suite. Genèse 39, Joseph est vendu, il est esclave. Et à ce moment-là, il est dit, et l'Éternel fut avec lui. L'Éternel n'est cité qu'au moment où il est dans l'affliction. L'Éternel fut avec lui, l'accompagna et le bénit. Mais pour autant, il va rester dans l'affliction. Et uniquement à partir du moment où il est descendu en Égypte, vendu comme esclave, là le nom de l'Éternel va être manifesté. Jusqu'à ce qu'au travers de l'affliction, Joseph devienne Ce qui paraissait impossible, le premier ministre d'Égypte et une bénédiction même pour ses frères qui l'avaient rejeté. Et alors, dans Genèse, toujours, au verset, donc, excusez-moi, je reprends, Genèse 41 au verset 50, voilà ce qui est dit. Je voudrais juste insister là-dessus, je trouve ça magnifique. Je n'ai pas le temps de tout relire, hein. Il y a plusieurs chapitres, mais relisez-le si vous avez la Bible, relisez-le. C'est magnifique. Genèse 41, verset 50. Vous savez que Joseph a alors été nommé premier ministre parce qu'il peut interpréter les rêves de Pharaon qui explique que 7 années de famine vont arriver après 7 années de bénédiction. Et donc Joseph va être celui qui va organiser le salut des Égyptiens, comme Jésus est celui qui organise le salut du monde entier. Et voilà ce qui est dit. Avant les années de famine, Joseph, qui était alors nommé premier ministre, eut 2 fils que lui donna Anat, la fille de Potiphar, le prêtre d'On. Joseph appela l'aîné Manassé, car il a dit « Dieu m'a consolé et m'a fait oublier toutes mes peines. » Et il appela le second Éphraïm, car dit-il « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon malheur. » Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon malheur. Dans l'affliction, Dieu est avec nous. Et il peut nous rendre féconds dans le pays de notre malheur. Mais ce qui est formidable, c'est que quand vous lisez ce texte, il y a 2 enfants. Il y a d'abord Manassé avant Éphraïm. Il y a d'abord Manassé qui est consolation. Et c'est parce qu'il a été consolé qu'il a pu oublier son malheur et qu'alors arrive l'enfant de la fécondité, qui est l'enfant qui le rend fécond dans le pays de son malheur. Vous savez qu'Éphraïm et Manassé vont être ensuite 2 enfants qui vont donner 2 tribus au peuple d'Israël. Mon frère, ma sœur, si tu es dans l'affliction, si tu appartiens à Dieu, si tu as consacré ta vie à Dieu, Dieu te rendra fécond dans le pays de ton malheur. C'est une promesse. C'est une promesse. Il te rendra fécond pour toi et pour les autres. Quoi que tu traverses, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son projet. Selon son projet. Pour que tu puisses le recevoir et comme Joseph t'en réjouir, simplement, ne regarde plus ta vie avec comme axe de rotation ton propre malheur, mais cherche toujours à l'orienter sous le regard du Père. Joseph a traversé l'affliction, elle ne lui a pas été évitée, parce que Dieu était avec lui. Dieu a transformé cette affliction en bénédiction pour les autres. Ce qui me frappe beaucoup, et je terminerai avec cela, très concrètement, quelles sont les personnes qui peuvent le mieux aider ceux qui souffrent? Celles qui ont souffert elles-mêmes. Pourquoi Jésus peut-il avoir compassion de nous? Pourquoi Jésus est-il capable de nous rejoindre dans nos enfers? C'est parce qu'il est descendu aux enfers. Pourquoi Jésus est-il capable d'avoir compassion du pécheur le plus terrible? C'est parce qu'il a porté le péché de ce pécheur le plus terrible. Et en Jésus, tout homme, toute femme a une fécondité dans le pays de son malheur, dans le pays du péché. Parce que Jésus nous en libère et nous donne la vraie vie. Vous savez, le mot péché, ça veut dire manquer sa cible. Péché, c'est passer à côté de sa vie. Tant d'hommes et de femmes passent à côté de leur vie parce qu'ils ne rentrent pas dans le projet que Dieu a pour leur vie. Car je connais les projets que j'ai formulés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Joseph, lorsqu'il était vendu comme esclave, devait avoir 15-16 ans. Ça a commencé là. Il est devenu bénédiction pour tout son peuple. Alors prenons courage dans le pays de notre affliction, dans le pays de notre malheur. Il y a une promesse de fécondité, parce que Dieu est bon, et Dieu est notre Père. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour Jésus qui, par amour, a supporté le poids de tous nos échecs, le poids de toutes nos fautes, le poids de tout ce qui nous attire loin de toi, le poids de tout ce qui nous tire vers la mort, de tout ce qui nous tire vers le malheur. Et merci parce que en lui, nous avons la vie et la promesse que tu accompliras ton projet par amour dans notre vie si nous te la confions. Seigneur, donne-nous d'être toujours confiants et de regarder notre frère et notre sœur qui est dans l'affliction avec ce regard-là pour l'encourager, l'aider et l'accompagner jusqu'à la fécondité. Dans le nom de Jésus. Amen.